Il est 8h à Paris, 9h à El Fasher, 7h en temps universel.
RFI Matin.
À la une de votre journal, Clotilde Dumé, la réponse d'Israël à l'ultimatum lancé par les États-Unis.
L'ouverture d'un nouveau point de passage pour théoriquement augmenter l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. On verra ce qu'il en est concrètement dans un instant avec le correspondant de RFI à Jérusalem. D'homme le plus riche du monde à homme politique, Elon Musk fera bel et bien partie de l'administration Trump. Une semaine après sa victoire aux États-Unis, le président élu nomme ses plus proches collaborateurs dans son équipe gouvernementale. Dans ce journal également, le lancement officiel pendant la COP29 à Bakou du fonds prévu pour soutenir les pays les plus vulnérables après une catastrophe climatique. Des centaines de millions de dollars ont été promis, mais le secrétaire général des Nations Unies estime que c'est insuffisant. Et puis en France, toujours pas de budget. Le texte a été rejeté hier par l'Assemblée nationale. Il va être examiné dès aujourd'hui par les sénateurs.
30 jours, c'est ce qu'avaient laissé les États-Unis à Israël pour augmenter l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
Dans une lettre datée du 13 octobre dernier, les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense avaient adressé une série d'exigences envers Israël en menaçant de réduire leur assistance militaire si rien n'était fait. Bonjour Sami Boukhelifa.
Bonjour à tous.
En direct de Jérusalem pour RFI. Alors un mois après cette lettre, l'ultimatum prend donc fin. Et l'armée israélienne a annoncé hier, Sami, l'ouverture d'un nouveau point de passage pour l'aide humanitaire à Gaza.
Cela porte à 3 le nombre de points d'entrée de l'aide dans la bande de Gaza, mais ce n'est pas le nombre de points de passage qui compte, mais le rythme d'entrée des camions. Washington a exigé 350 camions d'aide et de marchandises chaque jour à Gaza. L'ONU tient les comptes, c'est 10 fois moins, uniquement 37 camions par jour durant le mois d'octobre.
Alors Washington, pour sa part, affirme qu'Israël n'enfreint pas le droit américain concernant l'aide humanitaire, mais certains humanitaires redoutent qu'Israël soit en train d'appliquer dans le nord de Gaza son fameux plan des généraux.
Baptisé également plan Highland, il est l'œuvre du général retraité Giora Highland, imaginé il y a quelques semaines. Il consiste à vider le nord de la bande de Gaza, l'assiéger et le couper de toute aide humanitaire, et tant pis pour les civils. Le gouvernement et l'armée israélienne nient officiellement appliquer ce plan, mais c'est de fait ce que l'on constate sur le terrain, confie une source humanitaire. Et en Israël, des voix s'élèvent désormais pour dénoncer ce projet. Le professeur Menachem Klein est spécialiste des relations israélo-palestiniennes à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Écoutez bien, c'est un juif israélien qui s'exprime.
Les informations qui nous parviennent de la bande de Gaza montrent qu'Israël a recours systématiquement à des méthodes génocidaires. Le génocide, ce n'est pas un plan qui vise à détruire chaque Palestinien à Gaza. Le génocide correspond à une échelle de violence extrême infligée à un territoire et à sa population et à une destruction systématique de toutes ses institutions dans le but de détruire l'identité collective d'un groupe. Or, c'est ce qu'Israël fait en détruisant tous les hôpitaux, les universités, les tribunaux, les administrations. Israël détruit l'identité collective des Gazaouis, c'est clairement un génocide.
Alors on en est, Sami, à 13 mois de guerre, près de 44 000 personnes tuées à Gaza, dont 70% de femmes et d'enfants selon les Nations Unies.
Et depuis le 6 octobre dernier, l'armée israélienne a lancé une nouvelle offensive dans le nord de la bande de Gaza. Officiellement, cette nouvelle opération a un objectif, empêcher les membres du Hamas de se reconstituer. Mais de fait, l'armée est en train de vider la zone de ses habitants palestiniens, car il y a des projets de colonisation en perspective, note le professeur Menachem Klein.
Dans le nord de Gaza, il y a toujours des gens qui refusent de partir ou qui ne peuvent pas partir parce qu'ils sont atteints d'un handicap ou qu'ils sont trop vieux ou trop malades. Mais Israël va établir dans le nord de Gaza une autorité militaire. Israël ne souhaite pas permettre aux Palestiniens du nord de Gaza, temporairement déplacés dans le sud, de rentrer chez eux dans le nord. Car en Israël, les colons se préparent à reconstruire des colonies dans le nord de Gaza.
Un autre universitaire israélien, Tomer Persico de l'Institut Hartmann, explique « Si des colonies juives s'implantent effectivement à moyen terme à Gaza, alors on pourra considérer qu'Israël procède à un nettoyage ethnique. »
Sami Boukhelifa en direct de Jérusalem pour RFI.
La situation au Proche-Orient surveillée de près donc par les États-Unis et sans doute encore plus avec le retour de Donald Trump.
Le président élu dont l'administration pourrait être encore plus favorable à Israël. Pour l'instant, Donald Trump continue de composer son équipe avant sa prise de fonction le 20 janvier prochain. Il a encore annoncé plusieurs nominations hier, certaines attendues, d'autres un peu moins. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour.
Depuis Washington, Guillaume, on connaît le nom du futur ministre de la Défense et il a un profil assez surprenant.
Oui, il s'appelle Pete Hegseth. C'est un ancien militaire, mais il ne fait pas partie de la haute hiérarchie de l'armée. Il était jusqu'ici animateur sur la chaîne Fox News et en particulier dans l'émission matinale Fox and Friends, la préférée de Donald Trump, dont il est un fervent soutien. Donald Trump a aussi trouvé le futur patron de la CIA. Il s'agit de l'ancien représentant du Texas, Jim Ratcliffe, qui a aussi été directeur national du renseignement au cours de la dernière année du premier mandat Trump. Dans son communiqué, Donald Trump lui sait gré d'avoir dénoncé comme une manœuvre des démocrates les accusations de collusion avec la Russie contre lui. Un fidèle donc, comme deux autres dont la nomination était attendue et qui est confirmée, le milliardaire Elon Musk, qui sera accompagné de l'entrepreneur et candidat à la primaire républicaine Vivek Ramaswamy. Ils vont prendre en main un ministère de l'efficacité gouvernementale nouvellement créé. Enfin, Donald Trump a nommé son ambassadeur en Israël. Il s'agit de Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas et personnalité chrétienne évangélique influente, favorable notamment à la colonisation en Cisjordanie.
Et après ces nominations, Guillaume, Donald Trump va de nouveau franchir le palier de la Maison Blanche dès aujourd'hui.
Oui, pour la première fois depuis son départ en 2021, il vient à l'invitation de Joe Biden qui veut lui donner quelque chose qu'il n'a pas eu, un transfert pacifique du pouvoir. La dernière fois que les deux hommes s'étaient parlé publiquement, c'était lors de leur débat de la fin juin qui avait mis en évidence les difficultés du président sortant et précipité son retrait un mois plus tard. Étant donné leur relation fraîche, ce ne sera sans doute pas un moment agréable pour Joe Biden qui se trouve dans la position inconfortable d'être à la fois le successeur et le prédécesseur de son hôte du jour.
Guillaume Nodin depuis Washington. Avant le retour de Donald Trump, l'actuel chef de la diplomatie américaine est lui à Bruxelles aujourd'hui. Anthony Blinken va rencontrer les responsables de l'OTAN et de l'Union européenne pour tenter d'accélérer l'aide à l'Ukraine dans sa guerre contre Moscou. Les autorités ukrainiennes ont d'ailleurs déclenché une alerte aérienne ce matin face à une attaque de missiles russes sur Kiev.
Troisième jour de discussion à la COP29 en Azerbaïdjan.
La conférence mondiale sur le climat dans un pays grand producteur d'hydrocarbures où la déclaration du président azerbaïdjanais a fait grincer des dents hier. Selon Ilham Aliyev, le pétrole et le gaz sont des cadeaux de Dieu. À l'inverse, le premier ministre britannique veut que son pays devienne un leader mondial en matière de climat. Keir Starmer a annoncé une baisse d'au moins 81% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035 au Royaume-Uni. Les discussions donc se poursuivent à Bakou, mais voilà au moins une mesure concrète mise en œuvre. Le fonds de réponse aux pertes et préjudices est désormais opérationnel. Adopté sur le principe à la COP27 en Égypte, créé en fanfare à la COP28 aux Émirats. Ce fonds est destiné à soutenir les pays les plus vulnérables après une catastrophe climatique pour réparer les dégâts et compenser les pertes. C'était une revendication des pays en développement, exaspérés de subir les conséquences du changement climatique alors qu'ils en sont les moins responsables. Les précisions de Jeanne Richard.
Je pense que vous méritez des applaudissements pour tout ce que vous avez fait.
Sourire aux lèvres, le nouveau directeur du fonds Pertes et Préjudices, le Sénégalais Ibrahima Cheikh Diong, signe avec ses pairs le protocole de lancement du fonds. Un jour historique qui marque l'importance des négociations climatiques et de la coopération internationale. Jusqu'à présent, 722 millions de dollars ont été promis pour abonder le fonds et les premières sommes pourront être déboursées dès l'année prochaine.
On l'a dit encore et encore, on est extrêmement reconnaissant pour l'argent qui a été promis jusqu'à maintenant. Et on attend de voir se concrétiser ces promesses pour qu'on puisse commencer à agir au plus vite. On l'a aussi répété, les besoins sont plutôt de l'ordre de milliards de dollars. Donc on continue à lancer un appel à l'action et aux dons pour répondre à la demande des pays en développement.
Car les centaines de millions promis par les pays développés correspondent à peu près aux revenus des 10 joueurs de football les mieux payés au monde, a pour sa part déploré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soit même pas le quart des dommages causés au Vietnam par l'ouragan Yagi en septembre dernier, a-t-il ajouté.
Les précisions de Jeanne Richard. Les écoles vont rester fermées aujourd'hui dans une partie de l'est de l'Espagne. Deux semaines après d'importantes inondations ayant fait au moins 223 morts, la région se prépare à l'arrivée de nouvelles belles pluies torrentielles.
Au Soudan, cela fait désormais 7 mois, jour pour jour, que les combats font rage autour et dans la ville d'El Fasher.
La capitale du Darfour Nord est la dernière grande ville de la région à être encore sous le contrôle de l'armée soudanaise, mais elle est totalement assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Et selon un rapport de l'université américaine de Yale, la ville, Alexandra Branjon, pourrait tomber dans les mains des FSR à tout moment.
Selon le laboratoire humanitaire de l'université de Yale, les forces de soutien rapide ont resserré leur étreinte sur la ville d'El Fasher. Les paramilitaires ont avancé sur plusieurs fronts ces derniers jours et convergent sur 3 points stratégiques. Le quartier général de l'armée dans le centre d'El Fasher, la base militaire aérienne à proximité et la route qui mène du centre-ville au camp de déplacés de Zamzam, plus au sud. Les images satellites publiées par l'université montrent que le quartier général de l'armée a été endommagé ces derniers jours, ainsi que des bâtiments à proximité, une mosquée, le grand marché d'El Fasher, une école primaire et des habitations dans des quartiers résidentiels voisins. Ces images montrent également une augmentation significative du nombre de déplacés dans le camp de Zamzam, situé à 8 km. Alors que les paramilitaires semblent progresser, les organisations humanitaires rappellent qu'El Fasher et le camp de Zamzam ont servi de refuge pour de nombreux civils fuyant les combats dans toute la région et mettent en garde contre de possibles exactions si la ville tombe aux mains des paramilitaires.
Les explications d'Alexandra Branjon.
RFI 8h11 à Paris. Tout est à refaire en France pour le budget.
Après avoir largement été modifié par la gauche, la partie recette du budget a été rejetée hier par 362 voix contre 192. Le texte part donc dès aujourd'hui, Raphaël Delvolvé, au Sénat, dominé cette fois-ci par la droite et le centre.
Hier soir, les plus satisfaits, c'était les Républicains. Le député Vincent Jeanbrun, soutien du gouvernement.
On a toute confiance dans nos amis sénateurs pour que l'essentiel des amendements qui étaient très importants pour nous puissent être pris en compte par nos collègues sénateurs et y compris par le gouvernement.
Le budget qui sortira du Sénat risque de porter le sceau de la droite, jamais avare en termes d'économie et plus influente que les macronistes à la Chambre haute. La gauche le sait et attend avec impatience le retour du texte à l'Assemblée nationale. L'insoumis Éric Coquerel, pas surpris du résultat hier soir.
Mais à un moment donné, quoi qu'il fasse, il faudra qu'il revienne à l'Assemblée. Donc le gouvernement essaiera de faire sûrement un 49-3, puis là on aura l'heure de vérité, parce qu'il y aura une motion de censure. Le but final, c'est de battre le gouvernement et son budget, très clairement.
Si le nouveau Front populaire veut renverser le gouvernement, il lui faudra les voix de l'extrême opposé de l'hémicycle, celle du Rassemblement national. Si le RN a rejeté le budget hier soir, il reste menaçant à l'encontre de Michel Barnier. Le député Jean-Philippe Tanguy.
Il est temps que Michel Barnier propose un budget qui prenne en compte la volonté des Françaises et des Français. Okay. Pas spécialement confiant dans des sénateurs qui sont avec Michel Barnier.
Comment continuer de mettre la pression sur un gouvernement qui, pour le moment, n'a rien cédé au RN ? Du moins, le recul sur le gel des pensions de retraite annoncé lundi semble insuffisant.
Et dans le cadre de ce débat parlementaire sur le budget, le gouvernement vient d'ajouter un amendement pour prévoir plus d'1,5 milliard d'euros pour la décarbonation de l'industrie. Ça fera partie du volet dépenses que les sénateurs doivent examiner. C'est l'une des figures du mouvement contre la vie chère en Martinique. Rodrigue Petitot a été interpellé à Fort-de-France. Il a été placé en garde à vue après s'être introduit dans l'enceinte de la résidence préfectorale. Après l'annonce de son interpellation, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le commissariat de Fort-de-France pour réclamer sa libération.
Il est 7h13 en temps universel. Qui va diriger le ballon ovale à l'international? L'élection pour la présidence de World Rugby est prévue demain à Dublin, en Irlande.
Avec 3 candidats pour diriger la Fédération internationale de rugby, notamment le franco-marocain Abdelatif Benazi. L'ancien joueur international qui s'est déclaré tardivement ne fait pas favori Cédric de Oliveira, mais il veut bousculer un sport qu'il considère encore trop renfermé sur lui-même.
Abdelatif Benazi, c'est d'abord un des plus beaux palmarès de l'histoire du rugby français. Ancien capitaine qui compte 78 sélections en bleu, il a aussi disputé une finale de Coupe du Monde. Mais après avoir arrêté sa carrière de joueur en 2003, le Colosse a voulu s'impliquer autrement dans son sport.
Quand on est passionné, on arrête le terrain, mais la passion continue. C'est une continuité naturelle pour moi. J'ai de suite été séduit par ça.
Vice-président de la Fédération française depuis plus d'un an, il s'est lancé dans la course à la présidence de World Rugby il y a seulement quelques semaines pour tenter de faire évoluer un sport encore trop conservateur à son goût.
Le rugby, il est très étiqueté only English speaking countries, que les pays anglo-saxons. Cette façon un petit peu de voir l'évolution de ce sport toujours aussi conservateur, ça peut nuire à son développement.
Né à Oujda au Maroc, Benazi veut adopter une stratégie d'ouverture, notamment sur le continent africain, plutôt fasciné par le football.
Je crois en l'Afrique. L'Afrique fait partie de mes priorités. pour qu'on puisse mettre nos ressources humaines au service de ce continent, présenter un programme d'ouverture à d'autres territoires et puis en tirer les dividendes dans quelques années.
Outsider, Abdelatif Benazi aura pour rivaux l'Australien Brett Robinson et l'Italien Andrea Rinaldo, eux aussi d'anciens joueurs. Le futur président de World Rugby sera élu pour 4 ans.
Et l'élection, ce sera donc demain à Dublin.
Merci Clotilde Dumais. Clotilde Dumais, pardon, 8h15 à Paris, RFI Matin, encore une heure à passer ensemble, à suivre reportage en Allemagne, et puis nous appellerons Emeline Vin à Londres, également au programme de cette demi-heure. À notre question d'environnement, on s'intéresse ce matin aux émissions de dioxyde de carbone, en partie responsable du réchauffement climatique, et encore trop importante. À la une de la presse internationale, Frédéric Couteau, Elon Musk, futur ministre de Donald Trump.
Oui, le milliardaire fait les gros titres de la presse américaine ce matin. Le président élu Donald Trump a donc annoncé hier qu'il nommait Elon Musk à la tête d'un nouveau ministère sur la réduction des dépenses publiques et de la réglementation, pointe le Washington Post, confiant ainsi un énorme portefeuille au milliardaire de la tech qui avait apporté un soutien politique et financier à sa candidature à la présidence. Donald Trump a décrit ce nouveau ministère comme un projet Manhattan, référence au programme secret d'armes nucléaires visant à développer la première bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Un projet Manhattan donc dont l'objectif serait de réduire considérablement les réglementations, à diminuer les effectifs et à restructurer les agences fédérales. On ne sait pas encore comment une telle initiative serait financée ou gérée. En tout cas, relève encore le Washington Post, cela pourrait avoir des répercussions majeures sur le gouvernement américain et sur des millions d'employés fédéraux.
En effet, bien des questions restent en suspens, renchérit le New York Times.
Tout d'abord, Donald Trump n'a pas abordé le fait qu'un tel ministère n'existait pas. Il n'a pas non plus précisé si Elon Musk embaucherait du personnel pour cette nouvelle administration, alors que son but est de réduire la main-d'œuvre fédérale. Ensuite, poursuit le New York Times, Elon Musk avait déclaré avant l'élection qu'il aiderait le président élu à réduire de 2000 milliards de dollars le budget fédéral, mais il n'a pas expliqué en détail comment cela serait réalisé, ni quelle partie de l'administration serait réduite. Et puis, autre interrogation, comment Elon Musk s'acquitterait de cette tâche sans créer de conflit d'intérêts, étant donné que sa société SpaceX a obtenu des contrats fédéraux d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars au cours de la dernière décennie.
En fait, analyse Lacroix à Paris, dans la galaxie Trumpiste, une nouvelle planète a pris du galon au cours des dernières années, les libertariens.
Oui, avec pour chef de file le plus célèbre d'entre eux, donc Elon Musk, eux ont encore plus d'appétit pour la démolition. À leurs yeux, l'État est en effet une entrave à l'énergie individuelle. Il doit donc être limité au maximum et être réduit autant que possible à trois fonctions fondamentales, garantir le droit à la vie, à la liberté et à la propriété privée. Elon Musk pourrait donc se voir confier la tâche de réorganiser l'État fédéral, relève encore Lacroix, à la façon de Javier Milei, le président argentin qui avait fait campagne avec une tronçonneuse et qui s'était empressé de supprimer des ministères en arrivant au pouvoir. Plusieurs institutions sont ainsi dans la ligne de mire des libertariens américains, à commencer par le ministère de l'Éducation.
Dans l'ombre de Donald Trump, plus puissant que jamais, Elon Musk pourra mettre en œuvre son agenda caché, affirme pour sa part Le Temps à Genève.
Pour Olivier Alexandre, chargé de recherche au Centre National Français de la Recherche Scientifique, interrogé par le quotidien suisse, l'idée générale de Musk, c'est de montrer que le marché fonctionne mieux que la bureaucratie, que l'initiative individuelle doit prévaloir sur l'administration, que des saignées très importantes dans le personnel peuvent rendre le ministère public plus efficace, comme il a tenté d'en faire la démonstration avec PayPal contre les banques, avec Tesla contre General Motors, avec SpaceX contre la NASA et puis avec Twitter devenu X. Les idées de Donald Trump et Elon Musk sont proches, pointe encore Le Temps, mais l'union ne s'annonce pas forcément sans nuages. On parle de deux personnalités mues par le culte de la personnalité. Suivant une expression américaine, il ne peut y avoir deux shérifs dans une même ville, encore moins à la Maison-Blanche. Des conflits sont donc à prévoir. En tout cas, pour l'instant, le milliardaire a tout à gagner, affirme encore Le Temps. Ses entreprises, Tesla, SpaceX, Starlink, seraient des bénéficiaires probables d'une politique America First et des initiatives de production nationale. Tesla pourrait accélérer l'indépendance énergétique, Starlink la souveraineté technologique et SpaceX renforcer la sécurité nationale.
La revue de presse internationale avec Frédéric Couteau.
RFI Matin.
Pour la deuxième année de suite, l'Allemagne s'apprête à vivre une récession et l'industrie automobile, premier employeur industriel du pays, est particulièrement touchée. Les grands noms du secteur annoncent tous, les uns après les autres, de mauvais résultats, notamment Volkswagen, le numéro 1 en Europe. Le siège de Volkswagen, c'est à Wolfsburg. 60 000 salariés y travaillent et face à la crise en cours, c'est toute une région qui est tenue en haleine. C'est un reportage de Nathalie Versieux.
Il est presque 14h à Wolfsburg, l'heure du changement d'équipe. Des groupes d'hommes et de femmes sortent visage fermé de ce qui ressemble à une bouche de métro. Un écriteau fixé en haut des escaliers indique « Tor 17 », l'entrée 17 de l'usine, à 200 mètres de la gare et l'une des plus utilisées par les salariés. Samia vient de finir sa journée. Fille d'immigrés tunisiens à la chaîne, cet employé de bureau, doudoune rouge et visage avenant, a connu plus d'une crise chez Volkswagen.
Oui, mais ce n'était pas comme maintenant. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi, mais vous voyez cette collègue, par exemple, je parlais avec elle tout à l'heure, et elle est là depuis 43 ans. Elle va à la retraite cette année. Elle disait qu'elle n'avait jamais vu ça. Bien sûr, il y a toujours des solutions, mais là, ce sont vraiment des solutions violentes, des licenciements. Il faut voir, les gens ont peur. Peur pour leur emploi, pour leur sécurité.
Samia s'inquiète notamment pour les salariés des usines d'ex-RDA du groupe des régions où il sera plus difficile de retrouver un emploi. À Wolfsburg, chaque famille tremble depuis que le constructeur a annoncé début septembre vouloir résilier la garantie de l'emploi négociée avec les syndicats. Des dizaines de milliers de postes sont menacés. 3 usines pourraient fermer en Allemagne pour la première fois dans l'histoire du groupe. Devant la porte 17, l'inquiétude est palpable. Franck, la quarantaine, fils et petit-fils d'ouvriers de l'usine, s'apprête à prendre son poste.
Je travaille dans l'atelier des portes. On pose les câbles, la vitre, les isolants tout autour, le rétroviseur. Le rythme, c'est normalement une minute par geste, mais comme la production a diminué, on a baissé. On est maintenant à 2 minutes.
Les négociations sur l'avenir du groupe entre la direction et le puissant comité d'entreprise et le syndicat IG Metall reprendront le 21 novembre dans le stade Volkswagen de la ville, financé par le constructeur. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Et à Wolfsburg, il est 8h22. Direction à présent le Royaume-Uni où les ONG de défense des droits des migrants s'inquiètent. Selon plusieurs organisations, le gouvernement britannique utiliserait l'intelligence artificielle pour trier les candidatures des demandeurs d'asile. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour, bonjour à tous.
En direct de Londres avec nous ce matin. Alors Emeline, c'est le groupe militant Privacy International qui révèle ses inquiétudes et cela concerne un logiciel en particulier.
Oui, ce programme s'appelle IPIC. Pour identification et priorisation des affaires d'immigration. Son but, c'est de faciliter la prise de décision concernant les migrants et les demandeurs d'asile susceptibles d'être expulsés. Comment ? En analysant des dizaines de données, comme l'état de santé, l'ethnicité ou le dossier judiciaire, selon l'ONG Privacy International, le programme digère toutes ces informations et émet une recommandation au sujet de l'individu, en faveur ou non de son expulsion. Le gouvernement britannique aurait commencé à utiliser IPIC autour de 2019-2020 et depuis il fait face à un amoncellement des demandes d'asile. La technologie est souvent présentée dans ce contexte comme la solution à des délais qui ne font que rallonger et qui pèsent sur les finances et les ressources publiques.
Et qu'est-ce qui inquiète les organisations de défense des droits ?
Elles y voient plusieurs problèmes. Déjà la teneur des données récoltées, en particulier celles qui touchent à la santé. Ensuite, et surtout, elles dénoncent un manque de transparence. Privacy International a mis plus d'un an à obtenir des informations, un droit pourtant inscrit dans la loi ici, et elles s'inquiètent de la manière dont ces informations sont utilisées. Un exemple, toujours sur la santé, l'ancien ministre conservateur de l'Intérieur, James Cleverly, estimait que certains demandeurs d'asile faisaient semblant d'avoir des idées suicidaires pour influencer la décision en leur faveur. Se pose alors la question, l'algorithme peut-il être modifié ? Est-il modifié suivant les positions du gouvernement ? Les associations, et pas seulement Privacy International, s'indignent surtout que des décisions aussi importantes, qui concernent la vie de plus de 40 000 personnes, dépendent autant de la technologie. Des études, vous le savez peut-être, ont déjà montré que des outils d'analyse présentent des biais discriminatoires similaires à ceux qui existent dans la société. En plus, des erreurs ont pu être constatées, notamment sur l'identité des personnes.
Et est-ce que ça veut dire, Emeline, qu'il n'y a pas de facteur humain, que c'est l'algorithme qui tranche ?
Officiellement, l'algorithme émet une recommandation qui doit faciliter le travail des officiers de l'immigration. Dans les faits, on l'a dit, ceux-ci font face à un nombre de demandes très élevé et n'ont pas les moyens de toutes les traiter en profondeur. Bien sûr, il est possible de rejeter la recommandation, mais le logiciel réclame alors une justification. En bref, il est beaucoup plus simple pour les employés du ministère de suivre les recommandations du logiciel. Or, les demandeurs d'asile ne sont pas toujours avertis que c'est la technologie qui a été utilisée, ce qui limite leur recours. Le gouvernement n'a pour l'heure pas souhaité réagir.
Emeline Vin, en direct de Londres, avec nous. Merci beaucoup.
RFI Matin.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui hier à la tribune de la COP29 climat, s'est posé en leader de la lutte contre le réchauffement climatique, annonçant un plan de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre pour son pays, moins 81% d'ici 2035. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Andréane.
Les gaz à effet de serre, ce sont eux qui sont responsables du réchauffement climatique. Et parmi ces gaz, le dioxyde de carbone. Alors, où en est-on de nos émissions de CO2?
Eh bien, les émissions mondiales de dioxyde de carbone vont atteindre un nouveau record cette année, 37,4 milliards de tonnes, soit une augmentation de 0,8% par rapport à 2023. C'est le résultat de la dernière étude annuelle publiée ce matin par le Global Carbon Project, une équipe de scientifiques internationaux.
Alors, il y a quand même eu des progrès dans le déploiement des énergies renouvelables. Comment expliquer que les émissions de CO2 ne baissent pas ?
C'est vrai, il y a eu des progrès avec les énergies renouvelables, mais les renouvelables ne remplacent pas encore notre addiction aux énergies fossiles. Les émissions provenant de notre utilisation du pétrole, par exemple, montent de 0,9%. La principale raison, c'est l'augmentation du trafic aérien. Forte croissance aussi pour les émissions dues au gaz naturel, plus 2,4%. Et même les émissions issues de notre recours au charbon, dont certains avaient pourtant déjà prédit le déclin, continuent d'augmenter de 0,2% cette année.
Est-ce que certains pays font mieux que d'autres ?
Oui, tout à fait. Les émissions des États-Unis et de l'Union européenne, par exemple, continuent de baisser. Celles de la Chine augmentent toujours de 0,2%, mais ralentissent assez considérablement, il faut le dire, parce que l'année dernière, elles affichaient encore plus 5%. Les émissions de l'Inde, en revanche, sont en forte hausse, plus 4,6%, tout comme celles du reste du monde, plus 1,1%.
Et où va le dioxyde de carbone que nous rejetons dans l'atmosphère ?
Eh bien, on a de la chance, Andréane, environ la moitié est absorbée par les océans et par les plantes et les sols sur les continents. Mais ces puits de carbone naturels sont eux-mêmes victimes du changement climatique et de l'intervention humaine, on pense à la déforestation, et n'arrivent plus à absorber autant de CO2 qu'auparavant.
Et donc, Stéphanie, qu'est-ce que toutes ces données signifient pour le réchauffement de notre planète ?
On voit que le pic de nos émissions n'est toujours pas atteint et réussir de limiter le réchauffement climatique à 1,5% degrés semble désormais illusoire, estime le climatologue Philippe Sier, membre du Global Carbon Project.
On est déjà sur la crête des 1,5 degrés depuis 2 ans. Pour être sûr qu'on y est, il faut attendre 6 ans ou 7 ans. Moi, je pense que c'est complètement irréaliste de pouvoir réduire les émissions pour atteindre 1,5 degré. Même 2 degrés, en fait, l'écart se resserre. Si on continue les émissions au même rythme, dans 27 ans, on aura atteint la quantité qu'il est possible d'émettre et on pourrait même dépasser 2 degrés.
Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, les émissions de CO2 ne doivent pas seulement arrêter d'augmenter, elles doivent impérativement baisser, et ceci le plus rapidement possible.
Stéphanie Schuller pour la question d'environnement sur RFI. Merci à vous et à bientôt. Vous restez avec nous dans une minute, le journal Afrique. Restez avec nous.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien ? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international ? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
en partenariat avec l'Institut français. World Tour Records et RFI Talent présente BIM en concert. À l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Positive Vodoun, retrouvez le Bénin International Musical sur la scène du Cabaret Sauvage à Paris le 18 novembre à partir de 20h dans le cadre des concerts volants avec Arte. Plus d'infos sur cabaretsauvage.com.